Donc, cours 5.05, je dis pour l'enregistrement pour les étudiants à distance, que je salue au passage. 5.05, théologie pratique, l'accompagnement pastoral. Deuxième cours sur 1 Roi 19, versets 1 à 19, avec comme titre Dieu accompagne Élie. On va lire ce récit. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail comment il avait tué, par l'épée, tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie, disant: Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain à cette heure je ne mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Voyant cela, il se leva et s'en alla pour sa vie, et vint à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son jeune homme. Et il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, et vint et s'assit sous un genêt. Et il demanda la mort pour son âme et dit: C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha, dormit sous le genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Et il mangea et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et il se leva et mangea et but. Et il alla avec la force de ses aliments, 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit: Que fais-tu ici, Élie? Et il dit: J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Et il, c'est-à-dire Dieu, dit: Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre du feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva, quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui parla et dit: Que fais-tu ici, Élie? Et il dit: J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Et l'Éternel lui dit: Va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour qu'il soit roi sur la Syrie. Et Jéhu, fils de Nimshi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je me suis réservé en Israël 7 000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Et il s'en alla de là. Je vous propose, dans cette lecture, de retenir 7 points. Et vous allez les noter, comme ça, vous aurez ces 7 points tout simples, hein, que j'ai sur ma feuille, et que j'aurais dû vous photocopier, mais je n'ai pas pensé qu'il y avait 2 heures ce matin. J'ai fait que la première heure et pas la deuxième. Donc, sept points qu'on peut remarquer, hein, qui sont une proposition de plan, de réflexion dans ce récit qui nous dit Dieu accompagne Élie. Première chose, c'est dans le chemin de fuite du souffrant, puisque Élie est en fuite, hein, il a fait une bonne centaine de kilomètres, hein, entre Samarie et Beer-Sheba. Beer-Sheba, c'est en Juda, hein, c'est vraiment au sud de Juda. Samarie, c'est les 10 royaumes, c'est le royaume du nord, les 10 tribus. Hein, Et donc, il est en fuite, il a peur de Jézabel. Et donc, dans ce chemin de fuite, il faut commencer par prendre soin du corps. On pourrait dire qu'il y a un travail social. Et que ce soin est le soin d'une des souffrances. Première clé. C'est quoi votre souffrance? Ah ben, j'ai pas de quoi manger. Ou c'est quoi votre souffrance? Ben, en fait, c'est que je suis épuisé. Et vous êtes épuisé pourquoi? Ben, parce que j'ai tellement de mauvaises pensées, de difficultés, de cauchemars, que j'ai peur de dormir. Et du coup, la nuit, je ne dors pas. Et le jour, je dors un petit peu, mais je suis fatigué. Et qu'est-ce que vous mangez, en fait? Je mange que des frites. Ou des pâtes. Hein, voilà. Donc, première clé, c'est prendre soin du corps. Travail social. On va y revenir. Deuxième clé, c'est... Donc, première clé, mettons, c'est versets 5 à 8, hein, où on voit le soin de l'ange. Mange une fois, mange deux fois. et il ne faut pas craindre ce travail social. Hein, quand quelqu'un vient me voir, je lui dis, bon, vous vous couchez à quelle heure habituellement? Vous vous levez à quelle heure? Qu'est-ce que vous mangez? Combien vous mesurez? Quel est votre poids? Etc. Travail social. Hein? Si vous n'êtes pas en forme, c'est à cause de quoi, en fait? Travail social. Hein? Travail simple. Travail. Hein? Mais Dieu commence à faire ça avec Élie. Deuxième chose, versets 9 et 10. Élie trouve une caverne, il y passe la nuit, et donc la parole de l'Éternel vient à lui. Et donc, j'ai mis, deuxième point, c'est la définition de la souffrance par le questionnement. Hein, par exemple, voyant que Jean-René bâille longuement, je vais lui demander à quelle heure il s'est couché hier soir. Voilà. Alors, donc, questionnement... Écoute active, tout ça, il faudrait qu'on le précise. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active? Qu'est-ce que c'est que l'écoute? Il y aurait beaucoup de choses à voir. Là, on a 12 heures, donc on va faire un condensé. Mais l'an dernier, j'ai développé ça en 120 heures à la fac, un stage sur 3 semaines. Donc, il y a des choses à creuser. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ces 120 heures ont été enregistrées. Mais vous avez tellement de choses à faire que, voilà... Quand, dans les années à venir, vous aurez un peu de temps, mais ça non plus, ça n'existe pas. Si vous voulez prendre du temps pour écouter, il y a moyen d'écouter quelque chose de plus. On en parlera. Donc, deuxième chose, par le questionnement, c'est définir la souffrance. La parole de l'Éternel vient à Élie et lui dit, qu'est-ce que tu fais, Élie? Qu'est-ce que tu fais? Hein, une question simple. Hein? Question ouverte, qu'est-ce que tu fais? Hein, on est en train de lire 1 Roi 19, versets 1 à 19. Ces questions simples ouvrent. Et donc, on voit Élie qui répond. Et donc, voilà comment Dieu utilise cette première clé. Élie, parle-moi de tes souffrances. Et donc, on pourrait dire que on va y revenir parce que je vous donne ces 7 points, mais que la réponse d'Élie, c'est « Je suis resté seul ». Et d'ailleurs, Élie est le seul personnage de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, à qui il soit fait des reproches, hein, en Romains 10. Donc, Romains 10, c'est ça. Ouais. Donc, intéressant de voir comment... cette question simple amène une réponse simple. Je suis resté moi seul. Je devrais, à partir de ce « je suis resté seul », déboucher sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après? Troisième chose, verset 11. Dieu lui dit « Sors !» Et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et j'ai appelé ça approche directive, élargissement du champ de vision. Donc, Élie, tu étais en fuite, premier point. Deuxième point, je te dis qu'est-ce que tu fais? Et tu me dis, je suis resté seul. Troisième point, je te dis, ben, tiens, on va changer de place. Hein, voilà. Et on va voir ce qui se passe. Quatrième point, verset 12. Devant l'Éternel, un grand vent, un tremblement de terre, le feu. Et alors là, pour retentir à ce que nous disions sur les idoles, j'entends qu'il y a ici une mise en avant des idoles ou des faux dieux. Autrement dit, ce que Élie était capable de faire descendre le feu sur l'Holocauste. 1 Roi, chapitre 18, je crois. Hein, le feu était descendu à la parole d'Élie. Il s'était même moqué des prophètes, des 450 prophètes, qui priaient Baal, qui se faisaient des incisions, etc. Et à la parole d'Élie, qui avait construit son autel avec les 12 pierres, il avait mis l'eau, etc., le feu était descendu. Et le feu, le tremblement de terre, le vent, sont là. Mais c'est pas Dieu, ça. Et donc Élie avait mis sa confiance. Ça, là, je suis en dehors du. Je vais trop loin, là, déjà. Hein. Hein, mais je voudrais insister sur le fait que Dieu fait passer ça parce qu'il est en train de montrer à Élie là où Élie avait mis sa confiance. Élie avait mis sa confiance dans la force qui était dans sa main. Il avait oublié celui qui donnait la force. Et donc, c'est encore une clé souffrance, ça. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire à Élie, toi tu ne me parles pas de ta vie, mais moi je t'en parle. L'accompagnant pourrait très bien dire au souffrant, ça se passe comment dans votre église? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, mettre en avant des choses qui se passent pour faire réagir la personne. Et que la personne, par honnêteté, puisse dire, oui, c'est là où je mets ma confiance. Mais je suis déçu parce que ça ne marche pas. Donc voilà ce quatrième point, mise en avant des idoles et des faux dieux. Et là, on est dans une clé de responsabilité. Ce que je te dis, Élie, ça devrait te faire réagir parce que c'est là où tu mets ta confiance. Dans le feu, dans le tremblement de terre, dans le vent. Alors, quand même, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Élie entend la voix douce et subtile après le feu. Verset 13. Et donc il enveloppe son visage dans le manteau, dans son manteau, autrement dit, il a compris quelque chose. Peut-être qu'il a compris que la puissance en fait qu'il avait, et cette puissance qui est montrée, quelque chose qui risque de lui faire rater l'essentiel, qui est la voix de Dieu. Peut-être que Élie a un peu oublié, en fait, cette voix de Dieu, et du coup, il est obligé d'être vigilant, de se concentrer. Et donc, il met son manteau, et une voix lui parle, c'est Dieu qui lui parle, et qu'est-ce qu'il lui dit? Exactement la même chose que au verset 9 et 10, que fais-tu ici, Élie? Voyez donc, cinquième point, que Dieu reformule. Et là, en reformulant, nous sommes dans la deuxième clé, dans la clé de responsabilité. Première clé, clé de souffrance. Deuxième clé, responsabilité. Troisième clé, volonté de Dieu à mettre en œuvre. Ensuite, au verset 15 et 17, alors l'Éternel lui dit, va, retourne par ton chemin. Autrement dit, Dieu donne à Élie un chemin accessible. Et tu vas oindre, hein, tu vas finalement, tu ne veux plus être toi le prophète en Israël, le prophète. Il y en avait, mais Élie, c'était vraiment le prophète. Et donc, tu vas finir ton ministère en oignant les rois et celui qui va te remplacer, Élisée. Et donc là, il y a la troisième clé qui est l'expression de la volonté de Dieu. Et, un peu curieusement, le septième point, peut-être que je suis allé trop vite, je ne sais pas si chacun a eu les six premiers points. Alors je les répète, hein, les six premiers points. Premier point, un chemin de fuite, prendre soin du corps, travail social. Deuxième point, ça c'est le verset 5 et 8, 5 à 8. Deuxième point, verset 9 à 10, définition de la souffrance par le questionnement, l'écoute active. Troisième point, une approche directive, sors d'ici, sors de la caverne. C'est Socrate qui a parlé du mythe de la caverne, Platon. Et c'est intéressant de voir qu'Élie est dans une caverne, hein, et que en fait il y a des choses qui sont un peu universelles finalement. Ensuite, donc, quatrième point, mise en avant des idoles, des faux dieux, verset 12, avec le vent, le tremblement de terre, le feu. Cinquième point, reformulation. Alors au passage, vous aurez ça, je peux vous l'envoyer par mail si vous voulez. Hein, ou, voilà. Cinquième point, reformulation. La même question est posée, verset 13-14. Sixième point, un chemin accessible, verset 15-17. Ou un lieu de réaction possible. Élie aurait pu réagir. Pourquoi est-ce que, quand Dieu lui dit « va oindre Azaël, Jéhu et Élisée », est-ce que c'est une fin de non-recevoir? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que Élie aurait pu dire « mais tu m'as posé une question, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je comprends que je n'étais pas à ma place, en fait. J'aurais dû rester devant Jézabel et continuer à faire mon ministère. Et septième point, c'est, versets 18 et 19, l'affirmation de la vérité. C'est, curieusement, en septième point, la réponse de l'Éternel, de Yahvé, à Élie, concernant ces deux affirmations. Ils ont transgressé ton alliance, renversé tes autels, tué tes prophètes. Élie, c'est vraiment le seul gardien du sanctuaire, on a l'impression. Hein? Et donc, il est seul, Dieu n'est même pas là, et Élie est désespéré parce qu'en fait, il se sent en échec, mais il sent que Dieu ne fait rien non plus. Et donc, réponse de Yahvé, je me suis réservé en Israël 7000 hommes. Hein, réponse, je crois, qui est reprise aussi dans ce passage de l'Épître aux Romains. Et qu'est-ce que, dans cette septième intervention de Dieu, dans cette démarche, je crois que là encore, quand Dieu dit ça à Élie, c'est pour quelque chose. Dieu répond à Élie, tu n'es pas seul, il y a 7000 hommes qui sont avec toi. 7000, ça peut être réaliste ou symbolique. Hein, il y a du monde, en tout cas, tu n'es pas seul. Et cette expression, verset 19, et il s'en alla de là. J'ai l'impression qu'Élie repart, voilà, il a entendu qu'il fallait qu'il aille oindre Azaël, Jéhu et Élisée, il repart, c'est tout. Mais ce que Dieu lui a dit, ça n'a pas fait de chemin en lui-même. Alors, je voudrais reprendre ces sept points. D'un point de vue pratique. Première chose, donc, le travail social. quelles sont les difficultés que les gens rencontrent aujourd'hui? C'est souvent le divorce. Je fais une toute petite parenthèse. Et je ne vais pas l'expliquer parce que ça prendrait trop de temps. Mais la catégorie sociologique des gens qui viennent me voir, c'est les 35-80 ans. Et pourquoi? Avec donc 70% de femmes, 30% d'hommes. Pourquoi? Parce que je vois cette phase dans la vie de 12 ans, environ, l'enfance, de la naissance à la puberté, l'adolescence, de la puberté à âge de quitte papa et maman, le jeune adulte, j'ai quitté papa et maman, jusqu'à ce que j'ai finalement fini mon noviciat. Hein, j'ai découvert la vie, j'ai découvert la sociabilité, l'amour, le travail, l'autonomie, etc. Et ensuite, il y a des phases de vie adulte fort et expérimentée, et des phases de retraité fort et expérimentée. Donc, enfance, adolescence, jeune adulte, adulte fort et expérimenté, retraité fort et expérimenté, ce qui fait que logiquement, on meurt à 84 ans. Et donc, c'est à peu près ça, en fait. Et si vous regardez Jésus, il a commencé son ministère à quel âge? À 30 ans. Autrement dit, et le Lévite servait de 30 à 50 ans. Il y a des indications dans tout ça. Je crois qu'il y a des tranches de vie qui sont explicites, hein, qu'il nous faudrait considérer. Et pourquoi est-ce que, pour moi, c'est surtout les 35-80 ans qui viennent me voir? C'est parce qu'en fait, le jeune adulte ne vient pas me voir tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses forces, surtout si c'est un homme. C'est-à-dire, en fait, on cherche à résoudre ses problèmes personnels par tous les moyens, et on se dit, c'est pas la peine que j'aille voir quelqu'un, parce que, en fait, c'est comme quand vous achetez un appareil super compliqué. Hein, vous, les hommes ne regardent jamais la notice, bien sûr. C'est pareil. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Je commence à faire du social. Je commence à faire une liste de choses simples. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dormir, manger, faire de l'exercice. S'occuper d'une dame, alors je ne vais pas trop donner le détail, hein, mais qui devait faire à peu près 1,55 m et 125 kilos. Et donc, elle vient me voir et elle me dit « Je vais depuis quelque temps chez un nutritionniste. » Oh, je me suis dit, très bien. Et pendant 2 mois, j'ai travaillé sur la notion d'exercice physique avec elle. Et au bout de 2 mois, voyant qu'elle n'avait pas perdu 1 gramme, alors qu'elle faisait 3 quarts d'heure de marche par jour, d'après ce qu'elle me disait, au bout d'un mois, je lui dis, mais quels sont les repas que vous propose le nutritionniste? Alors elle me dit, mais il ne m'en a pas parlé. Et qu'est-ce que vous mangez à midi et le soir? Des pâtes avec du gruyère. Et donc, vous voyez, le travail social, en fait. Hein, mais ce n'est pas péjoratif, ça. Hein, c'est, je crois que Dieu nous appelle à prendre soin de nous de bonne manière. Et de ce fait, dans ce travail-là, comme avec Élie qui était un homme capable des choses les plus excellentes, il n'était même pas foutu de prendre soin de lui parce qu'il était suicidaire. En fait, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant Éternel, prends mon âme. Et la motivation d'Élie, c'est car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se compare, enfin, voilà. Dans les trois clés, on pourrait voir chez Élie, de manière la plus simple possible, hein, sa souffrance, c'est qu'il est suicidaire. Sa responsabilité, c'est qu'il est en fuite, et la raison essentielle de sa souffrance, c'est qu'il se compare. Voilà. Donc, si on rétablit les choses du point de vue spirituellement valable, on va dire, mais se comparer, n'y a pas à te comparer, fais ce que Dieu te demande. La fuite, ça ne sert à rien. Et donc, une fois que tu réalises ce que Dieu te demande, ben, tu n'auras pas envie de te suicider. Parce que Dieu ne te demande pas de te suicider. Il lui dit au contraire, qu'est-ce que tu fais ici? Et donc, il ne faut pas qu'on craigne d'entrer dans ce travail social. Du tout. C'est normal. Le problème, c'est, on en est où, nous? Est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on fait un peu d'exercice? Qu'est-ce que veut dire dans Timothée 4 que l'exercice physique est utile à peu de choses? Des pistes. Hein? Mais l'esclave n'est pas plus grand que son maître. Si nous, qui accompagnons, nous ne sommes pas fichus d'avoir une position où, sur laquelle on soit bien, on est à notre place. Hein, ça marche, en fait. Hein. On se rend compte qu'on peut se coucher tard, hein, et pas trop bailler comme... et en plus, ça, c'est contagieux. Et donc, si on a éprouvé quelque chose, ça marche. La personne qui vient nous voir, il dit, bon, ben, j'ai envie, en fait, de vous parler. Deuxième chose, deuxième clé, deuxième étape, donc, le questionnement. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? On l'a vu dans la clé de souffrance avec les sept pronoms interrogatifs, hein, CQQ, c'est occupé. Je dirais que 70 ou 80% de l'efficacité pastorale, c'est le questionnement, c'est l'enquête policière. Et dans le « comment allez-vous », il y a plus qu'un simple « comment allez-vous ». « Comment allez-vous », ce n'est pas une introduction au fait que tout à coup, je vais donner une prédication à la personne. Pas du tout. C'est la personne qui va me donner une prédication. Moi, je peux dire que j'ai appris à vivre grâce aux souffrants qui sont venus me voir. Et c'est comme ça qu'on ne porte pas, en fait, les souffrants. Oui, il faut porter les souffrants, nous dit Romains 15. Hein, il faut que les forts portent les faibles. On ne va pas rentrer dans la définition des mots, mais oui, on a à faire quelque chose pour les autres, mais on a avant tout à être avec les autres. Et on a à connaître les autres, à découvrir ce que les autres, ce que les souffrants nous disent d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'on entre dans une relation qui est belle, qui est vraie, qui est explicite, qui est... comment dire, dans laquelle les autres, on le verra dans l'entretien de Job, hein, je crois dans 3 semaines, on verra comment en fait Job est quelqu'un qui va, sans qu'on lui demande rien, parler de lui-même. Donc quand quelqu'un vient vous voir, ne vous inquiétez pas. Il va, dans ce qu'il va vous dire, vous donner tout ce que vous aurez à entendre. Mais par contre, il faut questionner, qu'est-ce que tu fais? C'est de quoi que tu as envie de parler? C'est quoi qui vient en premier? C'est, on verra, je crois, la semaine prochaine avec Nebuchadnezzar. Il a fait des cauchemars, Nebuchadnezzar. C'est quoi le rêve? C'est quoi le cauchemar? Est-ce qu'il faut faire confiance à Freud sur l'interprétation des rêves? Que dit la Bible? Donc, comment est-ce qu'on écoute quelqu'un? Troisième point, une approche directive. Je fais de l'accompagnement. Autrement dit, je marche avec. Alors, j'ai des gens qui viennent me voir. J'ai une dame qui m'a parlé pendant 40 minutes. Alors, vous ne connaissez pas mon bureau, mais dans mon bureau, il y a des grandes fenêtres là, en plein midi. Et puis, il y a une table, et moi, je suis d'un côté, et la personne est de l'autre côté. Et la dame qui était en face de moi, elle m'a parlé 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, sans s'arrêter, au bout de 40 minutes, elle était rouge de colère. Elle me dit, mais enfin, vous allez me répondre? Et je lui dis, mais vous savez, j'attends que vous finissiez, en fait. Elle me dit, mais moi, si je ne vous vois pas m'interrompre, je ne m'arrête pas. L'approche directive. Donc, en fait, quand quelqu'un va venir vous voir, il va venir vous voir pour être accompagné. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui sait qui montre une direction à celui qui ne sait pas. Voilà. Et la direction, c'est les trois clés. La direction, c'est on va commencer par écouter la souffrance de quelqu'un. On va, une fois qu'on aura bien vérifié que c'est ça la vraie souffrance, alors on va définir la responsabilité. Et une fois qu'on aura défini la responsabilité, alors on va préciser quelle est la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu à l'égard de telle chose. Je suis responsable, par exemple, de mes enfants, oui, mais je ne suis pas responsable de ce que mes enfants, finalement, choisiront à un moment donné. Et surtout dans la mesure où mes enfants sont étudiants, ont quitté la maison et ont des choix amoureux, des choix d'études, des choix professionnels, etc. Il y a un moment donné où je n'en suis plus responsable. L'approche directive, c'est de dire à la personne, bien, je vois que vous avez vraiment beaucoup de choses à me dire, alors on reprendra tout ça au bout de 10 minutes, donc je vous arrête, excusez-moi de vous interrompre. Et déjà, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses, et on va en reparler. Mais là, vous m'avez dit, par exemple, que vous vous sentiez seul. C'est vrai ? Ah oui, si vous saviez... Alors, je l'arrête, et je lui dis, alors, c'est important pour moi que vous me disiez que vous vous sentez seul, parce que moi, quand je suis seul, je suis très heureux. Donc, en fait, ça peut vous paraître bizarre, mais... Ah oui, mais vous êtes très heureux parce que vous êtes souvent avec des gens et ça se passe bien. Et donc, quand vous êtes seul, ben vous faites autre chose. Eh bien, c'est ça. Mais ça montre bien que ce n'est pas la solitude qui est votre souffrance. C'est ce qui est derrière la solitude. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça va ? Je ne suis pas sûr. Je reformule. Hein ? La personne me dit, moi je souffre quand je suis seul. Et elle m'en fait un développement pendant 10 minutes. Et je lui dis, mais attendez, moi, quand je suis seul, je ne souffre pas. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ? Ah oui, parce qu'en fait, quand je suis seul, ce qui me fait souffrir, c'est que j'ai l'impression que je perds mon temps. Ah ! Donc, en fait, ce qui vous fait souffrir, ce n'est pas la solitude. Ce n'est pas le fait d'être seul. C'est parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous perdez votre temps. Et donc là, vous voyez que dans la clé numéro 1, on aura fait un peu un travail où la personne, on lui aura appris à faire la différence entre penser que être seul, c'est une souffrance. Non, être seul, ce n'est pas une souffrance. La souffrance, c'est l'opinion que j'ai de ma solitude. Quand je suis seul, je perds mon temps. Bon. Et donc, quand je comprends que j'ai l'impression de perdre mon temps quand je suis seul, alors la question que je peux me poser du point de vue chrétien, c'est, quand je suis seul, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire ? Comment est-ce que je peux occuper mon temps ? Et en tant qu'accompagnant, si je n'ai pas répondu à cette question, je vais avoir du mal à accompagner, à avoir une approche directive. Mais donc l'approche directive, ça aurait été de dire à la personne qui souffre, vous me parlez longuement de votre solitude, d'accord ? Et vous me dites que votre solitude est un problème, mais en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça, à un moment donné ? Et, oui, qu'est-ce que vous pensez du fait que, en fait, être seul, ben, par exemple, être seul, c'est l'occasion de se préparer à rencontrer quelqu'un. Si on est toujours avec quelqu'un, on ne peut jamais s'occuper de soi. Il faut des moments où on est seul. L'approche directive. Il y a un moment donné où il faut définir le cap avec souplesse. Hein, il faut donc l'accompagner et d'accord pour être conduit de manière souple, l'accompagner prenant des responsabilités. Et l'accompagnant prenant des responsabilités. Et finalement, on prend un chemin commun dans lequel les deux sont vraiment contents. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Sors de ta caverne, dit-il à Élie. Autrement dit, tu es dans ta caverne, tu es dans un espace confiné, tu ne vois que ton problème, tu as peur de Jézabel, tu t'es enfermé dans un trou. Maintenant, sors. Ah ! Tu sors et je te repose la question. Non. Je te repose pas la question. Avant de reposer la question, je fais défiler devant toi tes faux dieux. C'est le quatrième point. Et donc, toujours cette même personne, ou par exemple, je pourrais prendre le cas de Madame E, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sans du tout rentrer dans les détails. Madame E, son père est parti quand elle avait 15 ans, ses frères n'étaient pas protecteurs, autrement dit, elle a eu du mal dans cette famille, ils étaient autoritaires, elle a toujours eu des échecs amoureux, elle dit « quand j'ai le dessus, je fais du mal », autrement dit, elle, à un moment donné, elle exprime une violence qui lui pose problème. Elle dit un peu plus loin, « j'ai un manque de patience, d'indulgence, des claques qui partent à l'égard de ses enfants. J'ai une énorme peur du rejet et de l'abandon. Je suis prête à tout pour qu'on ne me laisse pas. Hein, » ce sont ces mots. Donc on est maintenant dans le point 4 qui s'appelle « mise en avant des idoles et des faux dieux ». Son faux dieu, c'est quoi là? C'est ce qu'elle vient de dire. Son objectif, c'est « je suis prête à tout », ça c'est le moyen, pour qu'on ne me laisse pas. Son objectif, c'est de pas être seule. Mais elle est prête à tout, pour qu'on ne la laisse pas. Pour vous dire jusqu'où ça peut aller, j'ai reçu quelqu'un qui s'est prostitué par amour. Je suis prête à tout pour qu'on ne me laisse pas. Et donc, quelque part, c'est elle qui me dit ses faux dieux. Je suis prête à tout. Je n'ai pas eu besoin. Ça c'est à peu près 20 minutes de où elle se raconte. Où je n'ai pas besoin de lui poser tellement de questions. Elle a fait une démarche parce qu'elle a choisi de venir me parler. Et donc, dans ce qu'elle dit, il y a les faux dieux, il y a les faux objectifs. En psycho, on appelle ça un scénario. Hein, voilà, ce qu'elle a décidé de faire pour, en pensant qu'en faisant ça, qu'elle irait bien. Je suis prête à tout pour qu'on ne me laisse pas. Et donc, son problème ou un de ses problèmes, c'est « je ne veux pas être seule ». Le problème, c'est que du coup, elle est en fausse relation. Parce qu'en fait, son objectif, c'est de ne pas être seul. Alors que l'objectif du chrétien devrait être... quoi ? Aimer. Hein ? L'objectif du chrétien, c'est... je veux dire, l'objectif le plus basique, c'est aimer. Si je viens vers vous parce que je ne veux pas être seul, je suis dans une fausse relation. Si je viens vers vous parce que je veux vous connaître, je suis dans une vraie relation. Donc, la détermination des faux dieux... Et souvent, ces faux dieux, ben, il faut un peu de... il faut s'en occuper pour qu'ils émergent. Parce que pour la personne, c'est tellement normal. Vous savez, personne n'est parfait. À propos de ça, on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais retenez, vous lirez Colossiens 4:12, hein, dans le grec, afin que vous demeuriez parfait, grec, telos. Déjà, ça oblige à se poser des questions. Donc personne n'est parfait, on ne se refait pas. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Donc détermination des faux dieux. Le problème, c'est que les faux dieux, quelque part, sont tellement... hein, cette idolâtrie, l'amour de l'argent ou autre chose, ou le fait de mal connaître Dieu. Ah non, moi Dieu, mais on ne le dira jamais. Mais j'ai peur de Dieu parce qu'il me punit. En fait, tout ce qui m'arrive, c'est que Dieu me punit. La punition, c'est quand je fais mal, Dieu me fait mal. C'est ça la signification de punition. Mais Dieu ne punit pas. Dieu ne fait pas mal parce que j'ai mal fait. Dieu me discipline, c'est pas pareil. Un coup de pied au derrière, c'est pas pour faire mal. Un coup de pied au derrière, c'est pour discipliner. C'est pour faire se relever, même. Donc, en fait, quelle est l'image de Dieu? Quel est le faux Dieu qu'il y a? Donc, avec Élie, Dieu a montré une puissance. Mais la parole de Dieu dit, et l'Éternel n'était pas dans cette puissance. Point 5. Donc, Dieu reformule. La reformulation est un des trois piliers de la relation d'aide. Relation d'aide, dans ce que j'ai appris, c'est écoute, reformulation, maternage. Écoute, c'est facile à comprendre, mais l'écoute active, c'est de prendre chez l'autre ce que j'ai entendu et d'en faire un classement hiérarchique par importance. J'ai entendu ça, et ce qui me paraît être le plus important, alors on en parle. Écoute. Reformulation, c'est-à-dire que dans ce que j'ai entendu, on va en reparler parce que c'est important. Et maternage, c'est-à-dire on va donner un cadre accessible, ce que Dieu fait avec Élie. Point 6, un chemin accessible. Et dans ce cadre-là, on va proposer un chemin de progrès, un chemin de libération. La reformulation, point 5, est donc quelque chose qui devrait logiquement interpeller. Élie aurait pu dire à Yahvé, « Tu me l'as déjà demandé, je t'ai déjà répondu, tu es sourd ou quoi ?» Le problème, c'est qu'il est tellement dans son truc, en fait, je suis resté seul. Il est obsédé par ça, en fait. Qu'il ne réagit même plus, en fait, à la pertinence des questions de Dieu. Toi qui es Dieu, pourquoi tu me reposes en fait cette question? Voilà. Dans Job, au chapitre 33, il est dit, Dieu parle une fois et deux fois, et l'homme n'y prend pas garde. Alors il se révèle dans des songes, etc. Point 6, un chemin accessible. Alors le chemin accessible, il est différent. Mais par exemple, quand Madame E, qui elle a des difficultés de couple, parce qu'elle ne veut pas être... elle craint d'être abandonnée de son mari, et son mari qui a vécu un divorce traumatisant, en fait n'a qu'une peur, c'est que sa femme le quitte. Et c'est vrai, hein. Et donc en fait, ces gens-là sont dans une fausse relation. Lui, il a deux enfants d'un premier mariage. Elle, ils ont eu deux enfants après. Et ils sont dans cette fausse relation d'avoir peur l'un de l'autre. En fait. Et donc, c'est quoi le chemin accessible? Le chemin accessible, c'est par exemple de dire à Madame E, de lui faire comprendre qui est son mari. Et comment est-ce qu'il réagit? Alors, je suis... son mari et elle, et je lui dis, voilà, votre mari m'a dit en pleurant qu'il vous aimait tellement qu'en fait, il se rendait compte qu'il était maladroit, balourd et que ça ne marchait pas. Alors, il m'a dit, mais il vous a dit qu'il m'aimait? Mais il ne me le dit jamais. Et donc, en fait, le chemin accessible, c'est de permettre à deux personnes d'arrêter de communiquer sur des niveaux différents, parce que monsieur a peur qu'elle le quitte et madame a peur que ça ne marche pas. Mais chacun communique à sa manière. Et donc le chemin accessible, c'est d'amener l'un vers l'autre, de faire en sorte que l'un et l'autre puissent se comprendre. Et donc il y a un moment donné, ou point 7, on peut affirmer la vérité et donner quelque chose qui libère. Et je vais finir avec cette expression, et après, s'il y a des questions, on a quelques minutes pour en parler. Romains 6, 17 nous dit, « Vous étiez esclaves du péché, mais grâce à Dieu, vous en avez été libérés comment ? Ayant obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été enseigné. En français courant, ça veut dire, vous étiez esclave du péché. On revient à la question du péché posée tout à l'heure. Vous étiez esclave du péché. Mais pourquoi vous étiez esclave du péché ? Ben parce que, en fait, vous ne saviez pas comment il fallait faire. Mais vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été enseigné. Maintenant, vous n'êtes plus esclave du péché parce que vous savez comment ça marche, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est esclave de la bière ? Hein ? Ou esclave de la médisance ? Hein ? C'est parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça marche. Quelque part, on n'a pas compris, en fait, là où on est esclave. Quand tout à coup, on ouvre les oreilles et les yeux et qu'on est devant quelque chose de vrai, alors on n'est plus esclave, en fait. C'est ça, l'affirmation de la vérité qui nous libère. Jean 8, 32, « Si vous êtes mes disciples, vous persévérerez dans la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Partout là où ça ne marche pas, c'est qu'on n'est pas dans la vérité. Quand on est dans la vérité, ça marche, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Parce que la vie chrétienne est faite de souffrance. Mais quand on est dans la vérité, on n'a pas de souffrance ajoutée. Alors, je vous écoute pour les réactions. Et vous me dites, comme il n'y a pas de sonnerie, à quelle heure est-ce qu'il faut vous libérer ? 10h pile, ben, c'est très bien. Ajoutez.
Comment est-ce que vous réagissez suite à toutes les femmes qui viennent vous voir, parce que 10% on dit, et alors que la plupart de ces personnes sont des chrétiennes, elles sont dans une église, elles ont un pasteur, est-ce que vous n'êtes pas
en porte-à-faux ?
En porte-à-faux vis-à-vis, vis-à-vis du pasteur, par exemple, vis-à-vis du mari. Bon, là, vous avez un couple, vous avez deux personnes qui viennent vous voir, qui sont un peu différentes. Comment vous voyez ça ?
Alors, je dis ça pour l'enregistrement. Comment est-ce que je réagis quand il y a quelqu'un qui vient me voir alors qu'il va dans une église dans laquelle il y a un pasteur ? Et est-ce que je ne suis pas en porte-à-faux avec le pasteur ? Donc, la réponse, c'est que à Aix, par exemple, je connais l'ensemble des responsables d'église, pasteurs, anciens, et prêtres, curés, hein, j'en connais pas mal. Et donc, mon travail est relativement connu, et donc je n'ai pas de problème, et je travaille pour ce qu'il n'y ait pas de problème, je ne fais pas de prosélytisme, je ne travaille pas pour ma paroisse, hein, je travaille pour que les gens deviennent libres. Donc, je n'ai pas de problème avec les pasteurs ou avec les curés parce qu'en fait, ils savent que je ne veux pas détourner les gens. Ça, c'est une première réponse. Et puis, ils savent aussi ce que je fais, comment je travaille de manière assez globale. Une deuxième réponse, c'est que là où il y a des gens qui font du travail pastoral, alors, en général, les gens qui souffrent n'ont pas besoin de venir me voir, puisqu'ils ont quelqu'un pour s'occuper d'eux. Je crois que les gens qui s'occupent précisément et activement de la question pastorale sont très très peu nombreux. Hein, voilà. Personnellement, dans le monde protestant évangélique, je connais beaucoup de formateurs, mais je connais excessivement peu de personnes qui font ça à plein temps. Et je connais même des formateurs qui ne font pas de travail pastoral. Ce qui me paraît un peu aberrant, en fait. Hein? Donc, le problème, c'est que le pasteur fait souvent un travail de visite, mais il va voir quelqu'un une fois par an, deux fois par an, hein? Mais parce qu'il a une grosse charge. Donc, ce n'est pas un reproche que je lui fais. Mais pour aider quelqu'un à sortir de sa difficulté, personnellement, j'ai un programme sur 2 ans, où dans la première année, on fait un débroussaillage avec les 40 pas, à raison d'une heure par semaine, et dans la deuxième année, on fait un travail plus profond avec la feuille sur les pensées et globalement l'enseignement des épîtres, qui n'est pas un travail de formation biblique, mais un travail de restauration hein, restauration logicielle, un peu, hein, de restauration qui permet de remettre un peu les choses à leur place. Est-ce que j'ai répondu ? Autre chose ?
Là, ma question, ce serait comment, en tant que pasteur, sur notre paroisse, mettre ça en pratique pour faire des visites comme ça ? Parce que c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Alors, est-ce que pour un pasteur qui a une paroisse aujourd'hui, peut vraiment mettre ça en pratique et le faire comme il faut ? Ou est-ce qu'il faudrait qu'il dirige vers des personnes comme vous pour qu'il y ait un suivi ?
Est-ce qu'un pasteur qui a une charge de paroisse peut faire ce genre de travail ? Alors, je crois que tout est cas particulier. Donc, on ne peut pas répondre oui ou non. Mais il y a, et puis, en plus de ça, il y a des gens... enfin, il me semble qu'il y a aussi des questions de chemin, d'histoire, d'expérience, de fibre, de sensibilité. Et tous n'ont pas le même appel. Alors, il y a des pasteurs qui seront plus orientés vers l'organisation, vers les actions, vers la prédication, etc. Et puis d'autres plus vers la réalité pastorale. Je pense que dans une ville comme Aix, il faudrait quand même qu'il y ait, je ne sais pas, entre 10 et 20 pasteurs. 10 et 20 personnes qui passent un travail pastoral. Moi, je suis toujours plein, en fait. Hein. Et je ne travaille pas pendant les périodes de vacances, hein, donc ça fait faire des pauses. Hein, donc, vacances de la Toussaint, Noël, février, Pâques et grandes vacances. À chaque fois, il y a 15 jours de pause et il y a 2 mois pendant juillet et août. Mais en septembre, je suis plein, en fait. Donc, il y a du travail et c'est à chacun de s'organiser. Donc, parmi vous, il y aura peut-être des personnes qui iront plutôt vers la mission, vers l'enseignement, vers l'organisation, vers l'administration des églises, etc. Et puis d'autres qui iront vers la pratique pastorale. Alors, je vous remercie. Oui.
Vous n'avez pas mis d'email.